Oui, c'est un horaire un peu particulier. Hier, c'était jour férié, donc pas de Daniel Habert. Et donc, c'est ce mardi à 7h15 qu'on le retrouve avec une question intéressante quand même. La guerre avec l'Iran est-elle terminée? Eh oui, c'est la question que on se pose, bien sûr. Et pas que nous, d'ailleurs. Il y a pas mal de chancelleries qui se posent la même question. Et donc, on a posé la question à Daniel Habert. Enfin, Blaise van der Linden a posé la question à Daniel Habert. Voici ce qu'il en pense.
Bonjour Daniel Habert.
Bonjour Blaise et bonjour chers auditeurs.
Merci d'être avec nous ce matin pour nos traditionnelles conversations de 7h15. Alors Daniel, on va aller droit au but avec une question très rapide et très efficace. La guerre avec l'Iran est-elle terminée?
Elle est même simpliste, mais seulement d'apparence parce qu'elle implique une réponse complexe. La première chose à dire, c'est que le 24 juin, ce qu'on a appelé la guerre des 12 jours, la guerre directe avec l'Iran, c'est terminé par un cessez-le-feu décisif imposé par les Américains et totalement respecté. Et donc c'est la fin, non pas seulement de la guerre d'Israël avec l'Iran, mais de la guerre américano-israélienne avec l'Iran. Et il faut souligner que c'est la première fois que les deux pays ont été côte à côte face à un même ennemi et que pratiquement depuis le 8 octobre, jamais les deux armées n'ont été aussi coordonnées, avec une coordination d'une infinie finesse depuis que le partenariat existe. Ça, c'est un pas énorme qui a été franchi. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que cette guerre c'est pas seulement la guerre des 12 jours. Elle a commencé le 7 octobre, en fait, et je dirais même qu'elle a commencé dès 1979 avec la révolution islamique. Il faut jamais oublier une chose, c'est que quand la révolution islamique s'est installée, la première objectif central de cette révolution, et c'est resté vrai jusqu'à aujourd'hui, c'est la destruction d'Israël. C'est l'objectif principal. Et inversement, il faut jamais oublier que pour Israël, l'objectif principal de politique extérieure, c'est il ne faut pas qu'un pays du Moyen-Orient soit doté de la bombe nucléaire. C'est pour ça qu'Israël a détruit le projet irakien, le projet syrien. C'est pour ça qu'elle a participé à la fin du projet libyen. Il ne faut pas qu'il y ait un pays nucléarisé au Moyen-Orient. La troisième chose qu'on peut dire, c'est que l'Iran est déjà en train de préparer sa revanche. Il est probablement en train d'engager déjà un programme d'urgence pour développer une bombe. Donc la menace, si elle a été éloignée probablement de plusieurs années, elle n'a pas disparu. Et enfin, que le dispositif que l'Iran a mis tout autour d'Israël, qu'on appelle les 6 proxys, les 6 milices qui sont dans différents pays qui entourent Israël et qui ont été allumés les uns après les autres dès le 8 octobre par l'Iran, et qui fait que le 7 octobre, c'est les débuts de 20 mois d'une guerre israélo-iranienne en réalité, avec tous ses complices. Cette guerre-là, elle n'est pas terminée parce que chacun de ces milices est en train de préparer la vengeance et la revanche.
Alors,
oui.
Allez-y pour la quatrième.
Non, non, simplement pour dire que Israël a vraiment gagné. Il faut célébrer cette victoire en disant simplement que cette victoire n'est pas totale et que surtout tous les ennemis d'Israël gardent ce potentiel de polluer la vie d'Israël, qu'on appelle la guerre d'usure, et donc la première guerre avec l'Iran est terminée, mais qu'on est déjà en train d'entrer dans la suivante. Voilà, c'est ça un peu la conclusion.
Le 7 octobre 2023, depuis le début de cette guerre et ce massacre commis par le Hamas, beaucoup de choses ont changé. Qu'est-ce qui a changé, Daniel ?
Écoutez, ça a été non seulement un traumatisme, mais ça a dévoilé ce qu'on appelle la vulnérabilité d'Israël. Or, c'est un pays qui ne peut pas se permettre de perdre une seule guerre. Et donc, être vulnérable, c'est tout simplement impensable, intolérable et impossible à vivre. C'est la pire des situations. Donc, à partir du 8 octobre, toute la stratégie d'Israël a été de reconquérir la capacité de dissuasion qu'Israël avait le 6 octobre. Et c'est fait. C'est fait, c'est que non seulement c'est récupéré, mais qu'Israël est encore plus fort que jamais. Mais Israël reste un pays remis en question, le seul pays au monde dont l'existence est discutée. Il est plus fort que jamais, mais il est le plus critiqué que jamais, le plus démonisé que jamais, le plus isolé que jamais. Et surtout, il a appris une leçon. Et cette leçon s'appelle la nécessité de l'hypervigilance. Il faut tout prévoir, il faut tout anticiper et il faut tout prévenir.
Comment cette nouvelle attitude va-t-elle se traduire sur le terrain, justement?
Elle se traduit déjà sur le terrain. C'est-à-dire que si vous regardez bien ce qui se passe chaque jour aujourd'hui au Moyen-Orient, vous avez un Israël qui n'est pas enivré par sa victoire, d'abord parce qu'elle a coûté cher, mais qui ne relâche pas sa pression sur aucun des ennemis, ni sur l'Iran, ni sur les six proxys. Et je vous le démontre très vite, Israël donc décide de ne jamais plus subir, mais d'être aux aguets permanents. Avec la Judée-Samarie, c'est tous les jours que l'armée est en train de déjouer des possibilités d'attentats préparés par des groupes islamistes qui sont en Judée-Samarie. Le Hezbollah, qui est certes vaincu, fait l'objet d'une vigilance de chaque instant, et c'est pour ça qu'Israël a disposé le long de sa frontière des postes d'observation qui sont actifs. Il y a évidemment ce nouveau front de la Syrie, où on voit que là, Israël a largement anticipé que ce gouvernement nouveau, qui est djihadiste, qui est faible au fond, qui ne sera pas capable de maîtriser l'ensemble de la souveraineté sur le territoire syrien, et donc représente un danger permanent qu'il faut prévenir. Et enfin, vous avez Gaza, où là, la pression sur Israël pour terminer le combat à Gaza, est énorme. Elle vient des ennemis, elle vient des alliés, y compris des États-Unis, elle vient des opinions publiques, elle vient des intellectuels respectés occidentaux, y compris juifs et y compris israéliens. Et donc face à cette pression, vous avez un Israël qui est décidé à désarmer le Hamas, à ne pas lui laisser une chance de rester à Gaza, c'est-à-dire de se reconstruire. Alors le coût de cette décision est très élevé. Il y a des morts des deux côtés. Les otages ne sont pas libérés. Il y a une mobilisation très forte des réservistes qui pèse sur tout le monde. Il y a une difficulté à terminer cette guerre, mais l'alternative à ce qu'Israël fait aujourd'hui est encore pire, parce que le Hamas restant à Gaza, c'est l'impossibilité d'avancer dans la question palestinienne. Et c'est l'impossibilité de construire un Moyen-Orient de paix.
Oui, justement, Daniel, un Moyen-Orient de paix, ça fait des décennies qu'on l'espère. Est-ce que vous en êtes optimiste? Est-ce qu'on peut l'espérer, ce Moyen-Orient de paix?
Ben, disons qu'on connaît le chemin. Le chemin, il a un nom, c'est les accords d'Abraham. Il s'agit, autour des accords d'Abraham, de créer une zone de coprospérité entre tous les Arabes sunnites qui ont compris depuis longtemps qu'il fallait accepter l'existence d'Israël et qu'il fallait peut-être même coopérer avec Israël. Et cette coopération, elle doit être garantie par les Américains. C'est ça les accords d'Abraham qui ont d'ailleurs été inventés par Trump 1, et qui tient beaucoup. Alors, la clé de tout ça, c'est l'Arabie Saoudite. Celle qui est la clé, mais celle qui est l'obstacle. Elle est la clé parce que si elle entre dans les accords d'Abraham, on aura cette zone de paix, et zone de paix et de co-sécurité face à l'Iran. Et donc là, on aura peut-être un Moyen-Orient de paix. Mais le problème, c'est que l'Arabie Saoudite a peur de l'Iran. Donc elle est prête, si elle n'a pas de choix, à parler avec l'Iran. Et pour qu'on lui enlève le choix de ce compromis avec l'Iran, il faut que les Américains apportent des garanties suffisantes. Et c'est ça qui se négocie depuis longtemps, c'est là l'obstacle. Il faut un engagement très fort des Américains, et on sait que depuis Obama, cet engagement-là, il est douteux. Et d'ailleurs, l'Arabie Saoudite, qui observe l'attitude des Américains, ont vu un Trump hésitant faire la paix, souvenez-vous-en, avec l'Afghanistan. c'est-à-dire renoncer à l'Afghanistan. Mais aujourd'hui, le fait qu'il ait été autant aux côtés d'Israël a redonné confiance à l'Arabie Saoudite. Le fait qu'Israël aille jusqu'au bout à Gaza, peut-être aussi, est une clé pour rassurer les Saoudiens. Et donc, on voit que cette bataille de Gaza, c'est la clé pour l'Arabie Saoudite. Et c'est pour ça que ces jours qui viennent, ces semaines qui viennent, sont si importants.
Daniel Haber, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale de Radio Judaïka pour nos traditionnelles conversations. On se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.